On vise seulement encore 4 aéroports canadiens. Pourquoi encore les voyageurs?
Hugo Hull of Canada wins for his brother Perrick.
Bonne fin de journée, tout le monde. Une journée qui a été historique et à plusieurs égards. L'Europe, d'abord, surchauffe et enregistre des températures jamais vues. On va faire le point, d'ailleurs, avec un journaliste à Londres dans un moment. Mais malgré ces températures records, il y a le cycliste Hugo Hull qui a marqué l'histoire en devenant, ce matin, le premier Québécois à remporter la 16e étape du Tour de France. L'homme d'affaires et ancien cycliste Louis Garneau sera avec nous pour réagir à ça dans un moment. Mais d'abord, on va parler aux voyageurs plus particulièrement, parce que les règles changent dans quelques aéroports du pays. En fait, depuis ce matin, les tests aléatoires de dépistage de la COVID sont de retour, ouais, dans les aéroports de Vancouver, Calgary, Toronto et, bien sûr, Montréal. On va aller retrouver tout de suite ma collègue Sabrina Rivet. Salut, Sabrina.
Salut, Michel.
Alors, mesure qui vise, le retour de cette mesure-là, c'est pour les voyageurs entièrement vaccinés qui arrivent au pays. Explique-nous comment ça va fonctionner.
Ouais, c'est quand même la question qu'on se pose en premier. Donc, les voyageurs, en fait, qui reviennent de voyage vont recevoir un courriel environ une quinzaine de minutes après avoir franchi les douanes canadiennes. Donc, évidemment, c'est si vous avez été sélectionné. Et par la suite, eh bien, vous allez devoir procéder à un test, donc soit en personne ou même de manière virtuelle en obtenant un rendez-vous. Donc, ça, c'est quand même différent. Vous savez, avant, on avait les tests, on pouvait les faire directement à l'aéroport. Là, maintenant, ça va être à l'extérieur de l'aéroport. Et si votre résultat, il est positif, bien, vous devrez vous isoler pendant 10 jours. Donc, bien sûr, on revient avec des nouvelles mesures qui ne font pas l'affaire de tous. C'est le cas du transport aérien international qui a dit, on va aller justement voir un tableau. Ces restrictions sont en partie responsables des retards et des perturbations qui secouent l'industrie du voyage au Canada actuellement. Pour l'Association des agences de voyage du Québec, bien, c'est encore de montrer du doigt hein, les voyageurs et d'alourdir le processus du voyage. Et dans l'opposition à Ottawa, on n'est pas très satisfait. Je vous laisse entendre des réactions.
Malheureusement, on leur impose encore une fois un autre problème, qui est une autre situation, qui fait en sorte que le voyage devient de plus en plus pénible au Canada. Et on voit que ce n'est pas partout à travers le monde que l'on applique ça. Et même ici au pays, on cible certains aéroports plutôt que tous les aéroports. Alors, pourquoi enquiquiner les gens?
On vise encore les voyageurs. On vise seulement encore 4 aéroports canadiens. Donc, quelqu'un qui arrive à Québec, Moncton, Halifax, est moins dangereux que quelqu'un qui rentre à Montréal. C'est un peu... On figure un peu que ça commence à être un peu du n'importe quoi, de l'improvisation du gouvernement fédéral. Les fêtes du Canada ont lieu, on n'a pas testé personne. Donc, pourquoi encore les voyageurs?
Bon, et comment réagissent les voyageurs, justement?
Pas compliqué, Michel, hein? Quand même. Pour certains, ils se disent, bah, écoutez, ça ne nous empêchera pas de voyager, on peut aller en écouter quelques-uns.
Moi, ça me dérange pas, puis c'est au retour, fait que c'est moins handicapant qu'à l'aller. Ouais. À l'aller, ce serait plus poche, là, mais comme, ça va.
Est-ce que vous avez entendu parler du retour des tests aléatoires?
Non, j'ai pas entendu parler de ça.
Pour moi, je trouve que c'est rassurant, puis c'est pas trop demandé.
Et en terminant, bien, je te parle en direct de l'aéroport de Montréal. Simplement dire que la situation est toujours un peu difficile pour les départs, mais j'ai parlé avec le porte-parole de l'aéroport qui me dit quand même qu'on voit quand même certaines améliorations.
Bon, c'est une bonne nouvelle quand même. Merci beaucoup, Sabrina.
Quand même. Bye-bye.
La canicule se poursuit en Europe. La température a dépassé les 40 degrés Celsius aujourd'hui au Royaume-Uni. C'est une première dans l'histoire du pays. On en discute avec le journaliste Mathieu Boisseau et les correspondants pour France Télévisions à Londres. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir.
Il est 22h30 chez vous. Quelle est la température actuellement?
Eh bien, il fait encore 35 degrés. Oh. C'est à peine croyable. Ça fait, moi, des années que j'habite ici. Je n'ai jamais vu ça. Et comme les Britanniques qui sont totalement assommés par la chaleur, c'était la journée la plus chaude de l'histoire du Royaume-Uni. Aujourd'hui, en tout cas, depuis que les températures sont relevées, avec 40,3 degrés relevés dans l'est de l'Angleterre et ici à Londres, 40,2 degrés relevés à l'aéroport d'Heathrow.
Et comment les Britanniques réagissent face à cette chaleur extrême? Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que les unités d'air climatisé ne sont peut-être pas aussi fréquentes, aussi populaires que, par exemple, dans le sud de la France, là.
Non, les Britanniques ne sont pas du tout habitués à ces températures extrêmes et les corps souffrent comme les infrastructures d'ailleurs. Donc les entreprises ont donné des directives, certains employés, lorsque c'est possible, restent à la maison, télétravail. Des écoles aussi ont fermé pour éviter que les enfants ne soient trop exposés à la chaleur. C'est vraiment une période très difficile pour l'ensemble des Britanniques. Et puis il y a aussi des scènes qui sont assez inquiétantes. Moi j'ai par exemple aujourd'hui passé la journée dans la banlieue de Londres où les incendies se sont multipliés. Parce qu'avec 40 degrés, évidemment, la moindre étincelle s'est transformée en feu. J'étais par exemple dans la ville de Wennington, ou un petit village à l'est de Londres qui a brûlé très subitement cet après-midi. Et une dizaine de maisons ont été détruites. Et le maire de Londres a d'ailleurs déclaré une situation d'incident majeur parce que les pompiers de la capitale ont été débordés par tous les appels aujourd'hui.
Donc, le Royaume-Uni également est touché par des feux de forêt, comme on en voit en fait des incendies comme ça déclenchés un peu partout en Europe là, en ce moment-là.
Oui, et ça aussi, c'est finalement assez nouveau pour le pays. Alors, il y a les incendies et puis il y a aussi de nombreuses perturbations dans les transports aériens. Hier, par exemple, l'aéroport de Luton, qui est l'un des nombreux aéroports de Londres, a été paralysé pendant quelques heures parce que le bitume de la piste de décollage et d'atterrissage avait fondu partiellement, exactement. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes. Même les rails qui permettent évidemment au train de circuler ont aussi fondu. Donc, il y a eu de nombreux retards. On a vu aujourd'hui des passagers qui ont passé des heures et des heures dans les gares où, évidemment, il faisait aussi très chaud. Je ne vous parle pas du métro où là, il fait à peu près 35 degrés en permanence ici à Londres. Donc, c'est très compliqué aussi sur la question des transports.
Bon courage aux Britanniques. Bon courage à vous, Mathieu Boisseau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour ce compte-rendu.
Bonne journée. He's going to do it. 4 hours 23 minutes. And the memory of Hugo Hull's brother has driven him. He points to the sky in memory. Hugo Hull of Canada wins for his brother Perrick.
Victoire historique pour Hugo Hull aujourd'hui au Tour de France, alors qu'il est devenu le premier Québécois à remporter une étape du prestigieux Tour de France. Il a traversé la ligne d'arrivée avec un peu plus d'une minute d'avance sur ses plus proches poursuivants, dont son coéquipier canadien Michael Woods, qui lui a terminé troisième. Hugo Hull qui a décidé, dédié en fait cette victoire à son frère qui est mort tragiquement il y a près de 10 ans maintenant.
Des fois, quand je me couchais le soir en rêvant d'une façon je pourrais gagner une étape, c'était à peu près ça que j'avais en tête. Puis là, maintenant, j'ai ma photo avec le bras qui pointe vers le ciel en regardant mon frère. Donc, journée incroyable.
Et on retrouve tout de suite un très bon ami de Hugo Hull, ancien coureur cycliste, olympien et homme d'affaires, Louis Garneau, qui est avec nous. Bonsoir, M. Garneau.
Bonsoir. D'abord, quelle belle nouvelle.
Quelle belle nouvelle. Expliquez aux téléspectateurs. Moi, je connais un peu le lien qui vous unit à Hugo Hull. Expliquez-nous pourquoi vous le connaissez si bien.
Ben écoutez, Hugo est un jeune coureur que j'ai aidé quand il avait environ 15 ans, 16 ans. Il était cadet, il courait avec mes deux garçons. On l'amenait souvent à la maison, on le commanditait, on lui prêtait, donnait des vélos. C'est un garçon, j'ai toujours eu confiance parce qu'il était excessivement travaillant, motivé et très honnête aussi. Alors, on est restés des amis de vie. Et lorsque son frère est décédé en 2012, le 21 décembre, quelques jours après, je suis monté avec mon fils et on lui a donné une petite croix. Et si vous regardez la fin de la course, environ à 100 mètres, il va chercher cette petite croix dans son cou. Et après, il va tendre sa main vers le ciel en l'honneur de Pierrick. Et la semaine passée, sur Facebook, je suis en communication avec, je lui ai demandé « Est-ce que tu portes encore cette croix? » Et il m'a envoyé une photo, il m'a dit oui, puis il dit « Bientôt, je vais gagner une course pour mon frère ». Alors, aujourd'hui, c'est passé un petit miracle et il le mérite. C'est tellement un bon garçon.
Comment vous avez réagi quand vous avez vu cette finale?
Regardez, il monte sa croix. Regardez, il monte en plus. Et j'ai la même ici. Écoutez, quand j'ai vu la fin, je tenais moi aussi ma croix dans les dernières 10 kilomètres. Avec mon épouse Monique, et on était tellement fiers, on voulait qu'il gagne. Et je suis tellement fier de lui que je viens de me prendre un billet d'avion pour aller à Paris, pour aller le féliciter en personne et prendre un verre de champagne à l'arrivée aux Champs-Élysées dimanche soir. Alors, je vais envoyer plein de photos sur mon Facebook
Il n'y a pas de doute, si vous allez le rejoindre, c'est parce que vous êtes proche et vous êtes très fier de lui. C'est la canicule en ce moment en France. Pour franchir la 16e étape, Hugo Hull a parcouru près de 180 km sous un soleil de plomb. Comment on se prépare à une épreuve comme celle-là?
Écoutez, Hugo Hull est un coureur très bien préparé, qui est un coureur qui fait, comme on dit, le métier. Hugo sait comment s'hydrater, se nourrir, comment s'entraîner, comment récupérer. Il est un pro, un super pro. Et je peux vous dire que sa vie vient de changer parce qu'aujourd'hui, l'équipe va maintenant le considérer comme un leader et non pas juste comme un domestique ou un équipier qui va aider l'autre leader. Alors, c'est la chance de sa vie. Bon. Sa vie vient de tourner.
Ouais. Sa vie vient... Vous venez de vivre un moment marquant également par le biais. Il reste 15 secondes. C'est un jour historique pour le cyclisme québécois. En quoi?
Il sera notre grand motivateur pour toutes les jeunes. Et il est un modèle. Il nous rend toute la fierté québécoise. Bravo, Hugo. Je te vois dimanche.
Monsieur Garneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et bon voyage en France.
Merci.
Au revoir.
Je suis super satisfaite de M. Legault. C'est la pure vérité, je vous dis.
Publicité, en fait, vous la voyez, c'est cette publicité de la CAQ qui a fait beaucoup jaser ces derniers jours. La dame de 80 ans que vous voyez n'avait été au départ payée que 250 $. Et là, dans une lettre ouverte, sa fille a dénoncé le fait que sa mère ne devait pas être un élément central de cette publicité. La CAQ s'est défendue. La dame a finalement reçu 500 $ pour la publicité, dont la diffusion se terminait vendredi, tel que planifié, dit-on, du côté de la CAQ. Dans le cadre de l'importante campagne publicitaire préélectorale qu'on voit ces temps-ci, est-ce que la CAQ en fait trop? On en parle avec notre collaborateur expert en relations publiques, Victor Henriquez. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Michel.
Alors, d'abord, concernant cette publicité, il a été question, ça fait beaucoup jaser, la rémunération de la dame. Est-ce qu'elle a été suffisamment payée pour cette publicité-là?
Bien, je pense que notre parti politique, vraisemblablement, ça a créé un débat, puis c'est pas ça qu'on voulait. Donc, moi, je pense que le parti devrait se baser sur ce que l'UDA déterminerait pour ce genre de présence-là. C'est pas nécessairement beaucoup plus que le 500 $ qui a été donné, là, mais de s'assurer quand même qu'on respecte certaines balises qui sont égales pour tout le monde pour éviter ce genre de débat-là. Je pense que la CAQ va avoir pris des notes de cette situation-là.
Dans tous les cas, en tout cas, cette publicité-là a fait beaucoup parler. Et c'est qu'un élément d'une campagne publicitaire, pré-campagne électorale, la CAQ, qui a, on dirait, décidé de mettre le paquet cet été, hein?
La CAQ est en position unique. C'est la première fois de son histoire qu'il est dans cette position-là où est-ce qu'il doit se défendre. C'est le parti qui est attaqué par tous les autres partis. En 2018, ils étaient la solution à tous les problèmes. Maintenant, ils sont identifiés par ses opposants comme le problème. Donc, c'est sûr qu'en préélectoral, dans ce temps-là, tu investis beaucoup plus pour être capable justement de présenter le bilan. C'est ce qu'ils ont fait durant le mois de juin. Là, on veut justement recadrer et bien cadrer l'image de M. Legault, sa proximité avec les gens. On aime l'authenticité de cette dame-là pour ça. Et à partir du mois d'août, ben là, on va aller vraiment dans des publicités plus électoralistes, avec probablement aussi les programmes, puisque la CAQ veut faire dans un deuxième mandat.
Mais ça reste que là, ce sont des publicités électorales avant la campagne. C'est permis. Explique-nous un peu ce que dit la loi électorale.
Ben là, c'est l'effet pervers de l'élection à date fixe. Déjà, le président du DGEQ, le directeur général des élections, en 2015, disait: attention, on a un enjeu. Quand les élections étaient décidées à la dernière minute par le premier ministre, on avait moins peut-être de publicité préélectorale parce qu'on ne savait pas quand est-ce que l'élection serait. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on sait exactement la date de l'élection 4 ans avant. Donc, les partis peuvent tous se préparer à faire de grandes offensives. Les libéraux l'ont fait avec Dominique Anglade, le Parti québécois l'a fait, la CAQ le fait également. Donc, c'est sûr que les GEQ veulent encadrer parce qu'en ce moment, il n'y a pas de plafond maximal pour les dépenses de publicité, alors que pendant une élection...
Tant qu'on a de l'argent, on peut acheter des placements publicitaires en ce moment.
Et ce qui, dans le cas des partis au pouvoir, souvent, est un avantage, alors que pendant la période électorale, les publicités sont limitées à un maximum qui est le même pour tout le monde. Alors... Donc, c'est ça qu'il va falloir regarder. Et le DGEQ s'est déjà penché là-dessus dans les dernières années.
Donc, à partir du déclenchement de la campagne, là, le chrono, on pourrait dire, des calculs vont se faire pour être sûr que tout le monde respecte.
Tu ne peux pas faire de pub les 7 premiers jours, tu ne peux pas faire de pub le jour de l'élection. Et entre les deux, il y a un plafond maximum qui est le même pour tout le monde.
Intéressant. Mais là, reste que pour l'instant, on est inondé de publicités de la coalition Avenir Québec. Où sont les autres partis?
Les autres partis aussi ont moins de moyens, donc probablement qu'ils vont concentrer leurs investissements au mois d'août. Tu sais, en ce moment, Michel, on est en plein été. Je pense que oui, la CAQ a eu de la visibilité supplémentaire, probablement plus à cause de la nouvelle autour de la publicité que de la publicité elle-même. Les partis vont probablement tous se mettre sur les starting blocks. Je pense entre autres des libéraux qui commencent souvent leur saison politique avec le Congrès jeune au mois d'août. Ce sera pareil cette année. Donc, je m'attends à ce qu'au mois d'août, on ait une augmentation des publicités de tous les autres partis.
En cinq secondes, est-ce que c'est efficace, des campagnes publicitaires en plein mois de juillet?
Si c'était pas efficace, il n'y a personne qui le ferait.
Bon. Merci beaucoup. Donc, elle l'écoute quand même. C'est ce qu'on comprend.
Exactement.
Merci beaucoup, Victor. À bientôt. Les émissions d'arsenic de l'affinerie de cuivre Glencore à Montréal-Est ont baissé enfin en 2021. C'est ce que révèle un nouveau rapport de la Santé publique de Montréal consulté par Nouveau Info. Les moyennes annuelles d'arsenic dans l'air se sont situées entre 1 et 4 nanogrammes par mètre cube, ce qui est conforme à la norme québécoise de 3. L'affinerie de Montréal-Est se situe très loin, cependant derrière l'autre propriété de Glencore, la fonderie Orne de Rouyn-Noranda, où une moyenne des émissions d'arsenic de 87 nanogrammes ont été enregistrées en 2021. Les usagers du métro de Montréal qui se rendent à la station Mont-Royal peuvent découvrir le tout nouvel édicule qui a été inauguré aujourd'hui. Les travaux ont commencé en octobre 2018, ont coûté 50 millions de dollars. Ce nouvel édicule est plus lumineux, est transparent et il y a maintenant un ascenseur. Mon collègue Jérôme Scalia s'y est rendu aujourd'hui.
Je suis arrivée à Montréal en 2002, ça fait 20 ans cette année, et j'ai un souvenir assez vif de me retrouver ici sur la place Gérald-Godin, tout près du métro Mont-Royal, voulant aller rejoindre un ami dans le centre-ville et prenant la pleine mesure de l'inaccessibilité du métro.
On inaugure aujourd'hui notre 20e station en accessibilité universelle. D'ici 2025, on en aura 30.
Évidemment, il y a eu la pandémie qui a eu un impact là, sur tous les chantiers. Il y a eu des périodes où il y a eu un arrêt là, dans le début de la pandémie. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Petit retard, mais pas énorme. Puis des défis techniques, c'est sûr qu'il y en a eu plein.
Ici, à Montréal, on vit avec une situation particulière où, au fil du temps, il y a eu des décisions prises dans les années 90 où on a réduit la grosseur de l'édicule et on se retrouve depuis avec une hausse fulgurante de l'achalandage. On parle de 17 000 personnes par jour en heure de pointe, un achalandage pré-pandémie.
Bien, les clôtures, tout ce que vous voyez actuellement, c'est pour la fin 2022, début 2023. Ce qu'on nous dit, la rue Berry qui va demeurer fermée à la circulation. On agrandit la place Gérald-Godin. J'ai pas vu les TikTok, mais j'irai voir plus tard. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est qu'actuellement, les escaliers mécaniques sont fermés parce qu'ils étaient utilisés lors de la construction de l'édicule. L'édicule est resté ouvert pendant toute la durée du travaux. Donc, les escaliers mécaniques vont rouvrir. Donc, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas seulement les escaliers fixes ou l'ascenseur. Donc, mais il y aura toujours possibilité de faire des TikTok amusants dans les escaliers fixes.
Le manque de civisme est dénoncé par les organismes de bienfaisance qui recueillent les dons d'objets usagés. En été, les abords des boîtes de dons se transforment trop souvent en dépotoirs. Conséquence, bien, les objets donnés par des Montréalais se retrouvent parfois carrément aux poubelles. Voici ce qu'a préparé mon collègue Emmanuel Lerounega.
Des vidanges qui viennent amener du stock ici pour se débarrasser, là. Je vous dirais qu'on voit beaucoup de TV, système informatique, les anciennes TV avec les gros canons là, que ça pèse, des meubles, toilettes, des galons de peinture virés à l'envers, ramasser des pneus au changement de saison, c'est facile ici d'en ramasser 15-20, qu'on n'a rien à voir là-dedans, puis les éco-centres se font plaisir de les ramasser.
Nous, on ramasse les dons de vêtements, des articles de maison. Le principal défi, c'est qu'est-ce qu'on appelle des dépôts sauvages. Les gens nous confondent avec des éco-centres. Ils nous laissent des trucs qu'on ne récolte pas. On a beau l'afficher, comme exemple un pneu ou un lavabo ou des matelas. Nous, on ne prend pas les meubles. Donc, c'est pour ça que le camion aussi, lui, bien, il vient chercher les surplus. Le but, c'est de dégager le plus de profit possible, donc d'avoir des opérations moins chères possibles pour en remettre le plus possible à grand frère, grande sœur. Si 30 % de nos activités opérationnelles sont juste pour le nettoyage et non pour la récolte de dons, bien, c'est 30 % de notre énergie qui n'est pas à bonne place. Environ entre 50 et 70 000 livres de vêtements par semaine. Pour installer ces trucs-là, évidemment, ça prend l'autorisation, c'est sur un terrain privé. On a perdu notre droit d'avoir ces contenants-là sur certains terrains à cause que même si on y allait à tous les jours, on n'arrivait pas à tenir ça propre.
On arrive régulièrement ici, il y a toujours des personnes ici qui sont en train de défaire les sacs, c'est-à-dire, puis prennent ce qui est bon, puis s'en vont. Puis là, après ça, bien, c'est nous autres qui ramassent ça. Sauf qu'avec la pluie et ces choses-là, ça se ramasse que tout, c'est de la merde. Tu sais, excusez le terme, là.
Pas que c'est mouillé, que c'est souillé, on perd le don. Il faut payer pour s'en débarrasser. C'est-à-dire, on va prendre la même énergie, le même carburant, la même main-d'œuvre pour transporter des choses qu'on ne pourra pas utiliser. Dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, on arrive à fournir, on remplit nos engagements, mais on n'a vraiment aucun jeu.
Au lieu d'en faire, exemple, une vingtaine de sites, bien là, quand on voit des choses comme ça sur 4-5, bien on perd 4-5 sites qu'on n'aura pas eu le temps de faire la même journée. Le lendemain, on retourne, bien c'est les autres qui débordent, les autres sites. Fait que. Il y a des fois, il y a des journées, je pense qu'on travaille pour rien.
Je suis ici pour vous annoncer qu'on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate.
Le chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, a annoncé qu'il souffre d'un cancer de la prostate depuis 2 ans et demi, qu'il subit présentement des traitements de chimiothérapie. Par conséquent, il va perdre ses cheveux, sa barbe. Il espère continuer de monter sur scène. Il voulait avertir son public qui pourrait être surpris par sa nouvelle apparence. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Michel.
On reparle du scandale d'Hockey Canada parce que là, il y a les avocats de 7 des 8 joueurs, en fait, oui. Dont on ne connaît pas l'identité, il faut le rappeler, qui ont coulé des textos et des vidéos au Globe and Mail.
Oui, exactement. Textos, il y a un des textos, c'est un joueur qui demande à la présumée victime si elle a contacté la police. Et là, elle dit non, je ne veux pas vous causer de problème. Mais donc, il y a cet échange-là qui a été coulé par les avocats de ces joueurs-là. Il y a également une vidéo où on entend la présumée victime dire qu'elle est consentante. Et donc, on comprend pas trop là, le but des avocats des joueurs avec cette stratégie-là d'aller dans les médias ce matin. On va en parler avec Maître Benoît Girardin, avocat spécialisé justement dans le domaine du sport. Tout ça après qu'il y ait eu cette entente hors cours avec la présumée victime de la part d'Hockey Canada. Là, on sait que c'est un scandale qui n'en finit plus de finir. Là.
Présumée agression sexuelle, on verra ce qui va... va découler de cette enquête-là. Météo, on en parlait tout à l'heure, météo extrême en Europe, ça brûle là-bas, il fait extrêmement chaud. Oui. Chez nous, il va faire chaud, pas autant, là, mais il y a de la chaleur qui s'en vient.
Beaucoup d'humidité, il va y avoir un 40, humidex de 40 même dans les prochains jours. On va en parler avec le météorologue Jean-Charles Beaubois.
Et c'est déjà commencé,
mais
le
oui.
taux d'humidité est quelque chose. Hey, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée tout le monde, on se retrouve demain 17h30.